C'est en cherchant un passage et en priant, et je prie depuis plusieurs jours hein, pour ce matin, et puis je me suis dirigé vers les psaumes, et j'ai lu le psaume 55, 56 et 57. Et ces trois psaumes ont en commun trois situations différentes dans lesquelles David a dû compter sur le Seigneur. Il a dû exprimer sa confiance dans le Seigneur. Et chacun de ces psaumes, c'est pour des situations différentes. Le psaume 55, c'est la trahison d'un ami. 56, c'est lorsque David se trouve entre les mains d'un chef philistin. Et il doit faire le fou pour sortir de là. Et puis le 57, c'est qu'il vient d'être délivré. Saül l'a eu presque, mais il a échappé. Et chaque fois, dans chacune de ces situations, David a dû faire confiance à Dieu. Alors, c'est bien d'essayer de voir ces psaumes, mais avec leur contexte historique et voir le... Ensuite, bien sûr, le psaume est composé après, mais il exprime cette douleur, ces réalités. Et bien sûr, pour nous aussi, hein, je crois que, à moins que vous soyez tout juste apparu dans la vie, vous avez eu des moments difficiles. Et durant ces moments difficiles, ce n'est pas une question de se plaindre du moment difficile, mais de savoir comment se comporter dans le moment difficile. Hein, c'est ça qui est important. Et David, chaque fois, nous tourne vers le Seigneur, faire confiance. Et si vous avez l'occasion de lire ces psaumes, eh bien, vous voyez que chaque fois, il part de confiance en Dieu, se confier en Dieu. Alors ce matin, nous allons nous arrêter seulement avec le premier psaume. C'est une situation de trahison. Et notre société occidentale a réussi à nous déculpabiliser de pas mal de fautes graves. Il suffit qu'il n'y ait pas de témoins ou qu'il n'y ait pas de preuves pour qu'un meurtrier puisse circuler librement. Ce n'est pas le fait qu'il soit meurtrier ou pas, c'est le fait qu'on l'a attrapé ou on ne l'a pas attrapé, on l'a vu ou on ne l'a pas vu. Il y a des preuves ou il n'y a pas de preuves, ce qui n'est pas juste. Si tout le monde le fait, eh ben même ce qui était une faute grave avant, mais si tout le monde le fait maintenant, ben c'est bon. Et on se sent justifié. On sent que ça devient permis parce que tout le monde le fait. Et puis aussi, sous la menace et la honte, il est possible d'imposer le silence. Et il y en a qui ont réussi à imposer le silence sur des jeunes enfants pendant des années. Et maintenant, ils parlent et ça sort, mais pendant longtemps. Le coupable est resté libre parce qu'il a su imposer le silence. Et vous savez, il y a des injustices comme ça, et on arrive à les justifier. Mais il y a, dans ce thème de la trahison, j'ai été un peu sur le net et j'ai un peu regardé, et là, on n'a rien fait. La trahison, c'est toujours mal vu, même encore aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe, même dans notre monde, la trahison, ça fait mal. C'est condamnable, et la trahison, eh ben, elle arrive toujours. Hein, c'est un acte odieux, et certainement que la plupart d'entre nous, hein, à partir d'un certain âge, la plupart d'entre nous avons vécu une trahison, à un degré quelconque, mais quelque chose qu'on a vécu comme une trahison, comme quelqu'un qui a trahi notre confiance, et l'expérience était chaque fois douloureuse. Hein, c'est toujours, on ne peut pas se préparer pour ce genre d'expérience. Ça fait toujours mal et ça prend du temps pour se remettre. Ça ne guérit pas facilement. Et quelqu'un a écrit, la confiance est comme une gomme. Elle diminue avec les erreurs. Ce n'est pas un verset biblique, mais bon, c'est une sagesse. Vous savez, la gomme est d'une certaine taille. Et puis on peut gommer un certain nombre de fois, puis c'est terminé. Et la confiance aussi, hein, on l'accorde, mais après, avec l'abus, ben, ça diminue. La confiance. Et ici, dans le psaume 55, eh bien, David est trahi. Le roi David est un homme qui a une grande confiance en Dieu. Mais dans ce psaume, il nous décrit les sentiments et les pensées qui traversent l'esprit de n'importe qui lorsque on est trahi par un ami. Déjà, un vrai ami, on n'en a pas beaucoup. On dit souvent les amis, mais après il y a l'ami, ça c'est autre chose. Et quand on est trahi par l'ami, eh bien alors là, ça fait très mal. Et il le dit, vous regardez, si vous êtes au psaume 55, vous regardez les versets 14 et 15, et voilà, il nous décrit la relation qui existait avec cet ami. Il dit, c'est toi que j'estimais mon égal, toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Voilà, la relation qu'il avait avec cet ami, on partageait tout, et ils vivaient tout ensemble. Et maintenant, peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais de qui est-ce qu'il parle ? Qui est celui qui l'a trahi ? Eh bien, ce n'est pas son fils Absalom, même si son fils a essayé de prendre le trône, et même aurait même tenté de tuer son père hein, pour prendre le trône. Mais il ne parle pas d'Absalom, son fils, mais plutôt de Achitophel, le conseiller du roi. Et dans 2 Samuel 15, il nous dit qu'il était le conseiller du roi. C'était celui qui, avec qui David consultait et qui était très sage. Et quand Absalom s'est fait proclamer roi, eh bien, il a réussi à attirer Achitophel vers lui. Et donc, ça a donné une conjuration très forte. Parce qu'Achitophel, ce n'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un de... Et si on avait Achitophel de son côté, alors ça donnait vraiment de la crédibilité à ce mouvement. Et quand David a appris que Achitophel s'était rangé du côté d'Absalom, eh bien, le cri ou la prière de David dans 2 Samuel 15, verset 31, il dit « Ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. » Parce que naturellement, il a de bons conseils. Il a dit « Ô Dieu, puisqu'il m'a trahi, puisqu'il s'est rangé du côté de mon ennemi, eh bien, réduis à néant ses pensées. » Et vous savez, il y a des situations de traîtrise et la personne sait tout sur nous. Tout. Et si elle part et puis commence à parler, alors c'est la honte. Et il y a des personnes qui se sont suicidées parce que l'ami les a trahis et a commencé à répandre des photos et a commencé à répandre des paroles et dire des choses. Et la honte est là et la personne ne peut plus faire face à la vie. C'est terrible. Et en trahissant le roi David, il met son savoir et sa sagesse à la disposition de celui qui veut le tuer, d'Absalom. Et le roi David a eu toutes ces pensées qui traversent son esprit. Et si nous regardons dans ce psaume 55, eh bien, nous pouvons voir, par exemple, les versets 7 à 9, il dit « Je dis, « Oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais, je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin, j'irais séjourner au désert. Je m'échapperais en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. » C'est la première pensée, c'est la fuite. Je veux partir d'ici, je veux disparaître. Mon ami m'a trahi, je ne veux plus être là où il est. Je veux être avec des personnes qui ne le connaissent pas. C'était sa première pensée. Peut-être que vous vous souvenez aussi de ces pensées-là. Ensuite, les versets 13, il dit « Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. » Il dit « J'aurais préféré avoir un ennemi qu'un ami qui me trahit. J'aurais préféré avoir un ennemi. Parce que là, je sais comment me comporter. Mais quand c'est un ami qui trahit, alors là, je ne sais plus quoi faire. On ne sait plus où aller. » Et il continue au verset 16, il dit « Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, que la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. » Et là, bien sûr, même si là, même dans ces circonstances, on a envie de souhaiter la mort à la personne pour arrêter les terres, pour les arrêter. Et ce sont les sentiments. Et vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que ce psaume est inspiré de l'Esprit de Dieu. Et David a ses sentiments, il les exprime, et les exprime à Dieu. Vous savez, je vous dis en passant, des fois vous pouvez avoir des sentiments, et écoutez, si vous êtes en train de parler à Dieu pour lui vider votre cœur, dites-lui tout ce qu'il y a dedans. Toutes les pensées, même si vous ne voudriez pas que quelqu'un d'autre les entende, mais vous pouvez les dire à Dieu, il sait déjà ce qu'il y a dedans. Alors autant, on a une expression en français qui dit « vider le sac ». Ça veut dire ce que ça veut dire, mais c'est pas, il y en a qui le vident n'importe où. Et après, il y a ceux qui déversent son cœur devant Dieu. Et ça, c'est autre chose. Et Dieu peut entendre. Il peut entendre tout ce qui passe dans notre cœur. On peut le lui dire. En fait, là, par le simple fait que ce psaume soit dans la Bible, eh bien Dieu nous encourage à lui parler. Et quand je traverse un moment difficile, quand j'ai des sentiments que j'aimerais pas exprimer, et je voudrais qu'on me retienne, mais au moins, dis-le librement à Dieu. C'est ce que Dieu a dit aux amis de Job à la fin de toutes ces accusations de Job, et Job a accusé Dieu de beaucoup de choses, mais Dieu a dit, Job a bien parlé, parce qu'il a dit la vérité de ce qui était dans son cœur. Soyons honnêtes, faisons pas semblant. La question, c'est parfois on dévide, et puis on se venge, et on se porte sur soit son épouse, soit sur son mari, sur ses enfants, sur les voisins, sur la société, sur tout, au lieu d'aller vers Dieu et décharger. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Parlez-lui. Donc le simple fait que ce psaume soit là, que l'Esprit de Dieu ait dirigé David à exprimer ce qui traversait son cœur. Verset 23. Non, verset 22. Verset 22, il nous parle, il dit « Sa bouche, voilà, il parle de celui qui l'a trahi, il dit « Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. » Voilà, l'hypocrisie. Il dit finalement, je ne me suis pas rendu compte, mais lui, il m'a quitté bien avant que je m'en rende compte. Et il parlait encore comme il parlait avant, mais en fait, son cœur était loin de moi. Et des trahisons dans les couples, des trahisons entre amis, entre partenaires dans un projet, et toutes sortes de choses. Et ça se nous laisse, on nous dit, mais ah, je ne me suis pas rendu compte, je n'ai pas vu venir. Et ça fait très mal. Mais vous savez, j'ai regardé sur beaucoup de choses, j'ai vu des poèmes sur la trahison sur le net, des choses vraies, des choses antiques. Mais je n'en ai pas trouvé un, bon, je n'ai pas tout vu, mais je n'en ai pas trouvé un qui en exprimant ces choses, s'est dit « Confie-toi en l'Éternel ». C'est le psaume 53, David, il dit tout ce qu'on ressent, tous les poèmes que j'ai lus, tous les... Il disait les mêmes choses, c'est les mêmes sentiments, Mais il n'y en a pas un qui a dit qu'a offert comme solution, confie-toi en l'Éternel. Mais ici, le psaume nous dit, et c'est ça qui fait la différence, c'est qu'ici, il nous dit, mais dans cette situation, confie-toi en l'Éternel. Regardez avec moi. Verset 2. Tout de suite, dès le début, il commence. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière. Et ne te dérobe pas mes supplications. Tout de suite, dès qu'il commence les sentiments, il est dit, mais il s'adresse à Dieu. Et Dieu, écoute-moi. Dieu, je sais, je ne suis pas grand-chose, je suis une poussière, je suis infime sur ce globe terrestre qui est petit dans l'univers. Je sais, mais écoute-moi. Je souffre au-dedans de moi, j'ai mal. Regardez au verset 17, il dit, « Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. » Dans cette situation, il exprime sa confiance. C'est un peu ce qu'on disait de Job aussi, il dit, même si l'Éternel me tuerait, j'espérerai en lui. Ma confiance en lui est sûre. Ce n'est pas parce que les hommes ont mal agi avec moi, ce n'est pas parce que j'ai vécu des choses parmi les hommes, que ça change ma relation avec Dieu. Ma relation avec Dieu, elle est sûre. J'ai confiance en lui et j'aurai confiance en lui. Et je me tournerai vers lui dans toute cette situation. Verset 23, il dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Et il ne te laissera jamais chanceler le juste. Il a dit, écoute, moi je me tourne vers l'Éternel et toi aussi dans cette situation, tourne-toi vers l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Pas un autre, mais il te soutiendra. Quand il n'y a plus personne, il est encore là. Et encore le verset 23, il termine tout à la fin, il dit, c'est en toi que je me confie. C'est en toi que je me confie, pas un autre. C'est Salomon qui disait dans les Proverbes, il y a un ami qui est plus proche qu'un frère. Il est toujours là. Vous savez, on peut être déçu par les meilleurs des amis sur terre, mais on a toujours recours. Si on est enfant de Dieu, on peut toujours se tourner vers Dieu. Et il est là. David dit ailleurs dans le psaume 37, verset 5, il dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Recommande ton sort, quel que soit ton sort, quelle que soit ta douleur, tu n'as pas à te dire « Ah !» Parce que des fois, il arrive, on commence à se culpabiliser soi-même, pourquoi je n'ai pas vu, pourquoi je me suis laissé entraîner, pourquoi je suis ceci, cela, on se détruit soi-même, on démolit la société, on démolit tout le monde. Au lieu de réagir de cette manière, tourne-toi vers l'Éternel. Et c'est là que se trouve notre espérance. Vous savez, David l'a vécu. Et on comprend, bien sûr, sa souffrance. Et lorsqu'on se tourne vers Dieu dans la prière, maintenant dans le Nouveau Testament, on s'adresse à Christ qui intercède pour nous. Et il nous est dit de lui dans l'Épître aux Hébreux, il nous dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous le sommes. Et lui aussi a vécu la trahison. Lui aussi a vécu la trahison. Et on connaît bien. Tout le monde connaît le nom de celui qui a trahi le Seigneur. Il a vendu son maître pour quelques pièces. Imaginez. 30 pièces d'argent, c'est tout ce que valait la relation avec Christ. Avec tout ce qu'il a vu pendant 3 ans. Nous, lorsque nous lisons les évangiles, tout le long, chaque fois qu'il est mention de Judas, il nous dit que c'est celui qui a vendu le Christ, c'est celui qui l'a trahi. Donc nous, en lisant les évangiles, on sait tout le long, pendant tous les 3 ans, nous savons tout le long que Judas est celui qui a trahi. Mais il ne faut pas oublier que les disciples, les 12, eux n'avaient aucune idée. Eux, ils sont en train, pendant 3 ans, ils sont là, ils fréquentent Judas, et ils ne savent pas, pour lui, c'est le meilleur des amis. Il est fidèle. Et c'est tellement, tellement qu'ils ont confiance les uns aux autres, c'est que dans la chambre haute, lorsque Jésus dit, il y en a un qui va me vendre, qui va me trahir, les disciples, ils ne savent même pas qui soupçonner. À tel point que chacun commence à douter de lui-même. Il dit, est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi? Il n'y a pas... Vous savez, des fois, vous sortez un truc comme ça dans le groupe, et puis tout le monde regarde et dit, ah oui, oui, moi, je sais à qui je pense. Mais là, ils ne pouvaient pas penser à quelqu'un. La relation entre eux était telle qu'ils ne pouvaient pas penser à quelqu'un. Ils ne pouvaient pas soupçonner quelqu'un. Ils pouvaient dire, mais je crois qu'il serait capable. Non, non. Chacun a plus douté de lui-même. Il dit, Seigneur, est-ce moi? Jésus a dû dire, bah, écoutez, c'est celui qui mettra la main dans la soupe avec moi, qui prendra la sauce avec moi, hein, qui prendra le pain, et puis prendre un peu de cette sauce-là, en même temps que moi, c'est lui. Donc tout ça, on le voit dans Matthieu chapitre 26, mais Judas, à ce moment-là, il avait déjà été voir les principaux sacrificateurs, lui-même, de sa propre initiative, il était allé vers eux. Il savait que eux, hein, tout le monde le savait, que eux désiraient l'arrêter, mais n'osaient pas à cause de la foule. Chaque fois, ils avaient le désir et Jésus pouvait le voir dans leurs yeux. Si, comme tout à l'heure, il a pu voir ce qu'il y avait dans le cœur de Zachée, il pouvait voir aussi ce qu'il y avait dans le cœur de ses sacrificateurs. Et il les voyait là, et ils ont envie de le prendre et puis ils n'osent pas. Et tout le monde le savait, et Judas le savait, mais il s'est dit, tiens, il y a une opportunité là. Moi, mon idée personnelle, c'est que Judas, il s'est dit, je vais le vendre, moi j'aurai l'argent, mais Jésus, il va s'en sortir, il s'en sort toujours. Ça se tournera bien. Je pense que c'est ça, il aimait l'argent, il était arrivé au point où il pouvait même voler dans la bourse des disciples. Donc, vous savez comment, même en français, on dit hein, qu'il commence par à voler un œuf, finit par voler un bœuf. Il commence par voler une Clio et finit par voler une Porsche. C'est pour mettre à jour. Hein. Voilà, et vous savez, il a commencé par la petite pièce. Et finalement, il commence à vider le sac. Et là, maintenant, ça manque. Au point, il a pu dire, lorsque Marie a déversé ce parfum sur Jésus, il dit, mais quel gaspillage! On aurait pu avoir cet argent et le mettre dans la bourse, là, pour aider quelqu'un. Et il dit, oui, aider quelqu'un, lui. Hein. Vous savez, quand on arrive à ce point-là, on a des drôles de pensées. On commence à être dominé par ce désir. Et alors il va voir les soins sacrateurs et lui dit, écoutez, vous ne savez pas comment l'attraper parce que vous ne savez pas où il passe la nuit. Moi, je sais où il passe la nuit. Et je peux vous conduire là. Vous me donnez combien? Il dit, bah, écoute, on te donne 30 pièces d'argent. Puis en plus, c'est pas seulement pour un voleur, vous savez pas, un voleur, on lui donne pas les pièces avant d'avoir. Mais apparemment, il a tout pris parce que c'est plus tard qu'il le jette. Hein, donc en plus, on l'a donné à un voleur, on lui donne tout l'argent avant d'avoir la marchandise, on a dit. Hein, ils lui ont fait confiance quand même. Hein. Vous savez, quand les choses se détériorent, c'est du n'importe quoi. Les voleurs entre voleurs, ils se volent. Hein. Et c'est lui qui va conduire cette troupe, Jean chapitre 12, c'est lui qui conduira. Et il leur dira, écoutez, celui à qui je donne le baiser, c'est lui. Donc ça devait être des gens qui ne connaissaient pas Jésus. C'est cette racaille qu'ils ont récupérée quelque part, c'est des gens qui n'avaient jamais, connaissaient pas Jésus, qui ne savaient pas le reconnaître. Donc il fallait lui donner un signe pour le reconnaître. Et puis, Jésus, il n'avait pas l'habitude de recevoir un baiser au milieu de la nuit comme ça, on arrive, et puis mais bon, C'était, on essaie de, vous savez, quand les choses vont de travers, ça va, tout va de travers. Jésus a dit, c'est comme ça que tu trahis le maître. Mais vous savez, et tout ça, ça paraît terrible. Mais cette trahison n'était pas imprévue par Dieu. Dieu savait qu'elle viendrait. Il n'a pas, Judas était entièrement libre de faire ce qu'il a voulu. C'était un désir qui s'était développé dans son cœur. Et Dieu, sachant, parce que Dieu est omniscient, il savait ce qui arriverait, il a pu faire des plans basés sur ce que les hommes feraient. Autant il a prévu votre place au ciel dès avant la fondation du monde, parce qu'il savait que lorsque vous entendriez l'évangile, vous le recevriez. Il a pu prévoir une place au ciel, sachant que lorsque vous entendriez, vous recevriez. De même, il a pu prévoir le comportement des hommes méchants et préparer un plan basé sur leur comportement. Et donc, Dieu, connaissant ce que Judas ferait, eh bien, il en a déjà parlé. Et regardez dans Zacharie. Zacharie, c'est à la fin de l'Ancien Testament. Zacharie, chapitre 11. C'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Zacharie, chapitre 11. Et nous lisons les versets 12 et 13. Alors l'Éternel parle, et au verset 12, il dit, « Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. » Et ils pesèrent pour mon salaire 30 sicles d'argent. L'Éternel me dit, « Jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. » Et je pris les 30 sicles d'argent, et j'ai le jeté dans la maison de l'Éternel pour le potier. Puis, je brisai ma seconde houlette union, pour rompre la fraternité entre Judas et Israël. Et vous lisez dans Jean chapitre 12, eh bien, vous avez exactement, c'est ce qui se passe. Judas, il trahit le maître pour 30 pièces d'argent. Une fois qu'il voit que Jésus, finalement, la situation ne s'arrange pas, et que Jésus est condamné pour être crucifié, alors là, tout d'un coup, la culpabilité arrive, et bien sûr, l'argent mal acquis n'a pas le même goût que l'argent bien acquis, et tout d'un coup, il vient et dit, non, c'était un homme innocent, et je vous ai vendu ça, il me dit, c'est ton problème. Et il jette l'argent, et comme eux, ils se disent, oh, ben, on ne peut pas prendre cet argent, c'est l'argent du sang, là, on ne peut pas remettre ça dans la caisse du temple, donc on va acheter un terrain, le terrain du potier, et puis ça sera un endroit pour enterrer les étrangers. Mais tout est là. Dieu a prévu. Et Dieu a pu prévoir donc la mort de Christ. Et Christ est mort. Christ a traversé, Christ a subi la trahison afin que nous ayons un sauveur. David en a parlé aussi. Le psaume 55 parle de la trahison de Achitophel, mais aussi dans le psaume 41, verset 10, il parle aussi de cette trahison, parce que ça quand même fait mal. Et donc, il a composé plus d'un psaume là-dessus, sur ce thème. Et le psaume 41 et verset 10, il dit, « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Et Jésus a repris cette parole. Il a dit, voilà, ce qui est arrivé à David et ce qu'il a ressenti, ben c'est ce que je ressens aussi. Vous savez, Jésus a senti toute la douleur et tout ce qui vient avec la trahison. Il l'a senti. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque nous vivons une telle situation, ben nous pouvons parler à Dieu aussi. Il dit, je te comprends, je sais, je l'ai vécu aussi. Je sais que ça fait mal. Mais ce n'est pas la fin du monde, parce qu'il y a toujours Dieu. C'est celui qui n'a pas Dieu qui ne sait pas où tourner. et qui peut ou broyer du noir, ou bien devenir fataliste et puis dire mais, je m'en fous, ou bien, excusez-moi l'expression, mais c'est ça qui se dit hein, dans ces situations. Mais celui qui a Dieu, il dit Dieu, ma vie est entre tes mains. Et c'est entre tes mains que je remets mon sort. La différence entre le roi David, quand il a été trahi, et Jésus, quand il a été trahi, c'est que le roi David, ben, c'était l'homme sur lequel il comptait le plus qui l'a trahi. Et il n'avait pas d'autre recours que de fuir, et il a fui. Tandis que Jésus a dit dans cette situation, il a dit, je pourrais faire appel à 12 légions d'anges pour me venger, mais je ne le ferai pas parce que je veux devenir le sauveur du monde. Et Jésus a traversé cette douloureuse expérience que la trahison, afin de devenir mon sauveur, afin que je puisse avoir le pardon de tous mes péchés, afin que je puisse vivre pour lui, afin que d'avoir accès à son intercession auprès du Père. Et vous savez, on est trahi de nos jours, même enfant de Dieu, on n'est pas préservé de cela, on est trahi par son partenaire, on est trahi par ses enfants, on est trahi par son employeur, on est trahi par les gens que nous avons élus, nous sommes trahis par toutes sortes de choses. La trahison, elle est là tout le temps. Même l'apôtre Paul, dans son ministère, a été trahi. L'apôtre Paul, quand il a commencé à avoir de gros soucis avec l'Empire romain et on commençait à en avoir assez de lui, eh bien, il y a des gens qui ont commencé à défiler et se sont dissociés de lui. Et il s'est retrouvé seul vers la fin de son ministère, il s'est retrouvé seul et certains qui avaient été avec lui ne sont plus avec lui. Il dira même dans 2 Timothée, il en parlera à Timothée et dans sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 4, verset 10, il dit « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Démas travaillait avec moi. Par ailleurs, il disait « Démas, et puis on travaille. » Et puis maintenant, mon collègue est parti. Il dira aussi, il dira « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. » Vous savez comment le sentiment, même l'apôtre Paul dit « Seigneur, eh bien, tu t'occuperas de lui. » Il ajoute « Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. » Ça existait, ça existera encore aujourd'hui, nous aurons. Et c'est toujours difficile de voir que celui avec qui nous avons travaillé, de le voir nous lâcher. Mais vous savez, lorsque c'est quelqu'un qui nous lâche, ça nous fait très mal. Mais n'oublions pas que si nous lâchons le Seigneur, ça lui fait très mal. On a comme l'impression que Dieu est bon et doit tout encaisser. Nous, on peut faire n'importe quoi et lui, il faut qu'il encaisse. Il faut qu'il soit toujours bon et qu'il fasse toujours un sourire. On imagine, c'est drôle comment on a cette image de petit vieux avec petit sourire et puis qui, comme ça, il est content, c'est bien, il fait le sourire à tout ce qu'on fait. Et puis il nous pardonne tout, et puis il supporte tout, et puis il ne ressent rien du tout. Ce n'est pas ça, Dieu. Nous avons un Dieu vivant, pas une statue, qui est là avec un sourire, qui reste jour et nuit, qui est quelqu'un qui regarde ou personne, il est toujours ce sourire. Non, 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 parce qu'on l'a peint comme ça. Non, non, notre Dieu est un Dieu vivant qui ressent tout ce que nous pouvons recevoir. Si nous ressentons quelque chose, c'est parce que nous avons été créés à son image. C'est parce que lui ressentait déjà que nous avons la capacité de ressentir. Si déjà les animaux ressentent, et puis on se met en peine pour le chat et le chien, et pour le cheval, et pour d'autres animaux, pour ce qu'ils ressentent, combien plus l'être humain ressent. Et Dieu, qui est à l'origine de tout ce que nous pouvons ressentir, toutes nos émotions, eh bien lui ressent aussi. Et vous savez, lorsqu'il est trahi, ça lui fait mal. Et lorsqu'on l'abandonne, lorsqu'il compte sur nous, et puis on n'est pas là, vous savez, même dans notre monde de mensonges, de corruption, l'infidélité est considérée comme une trahison. Même encore, on a pu déculpabiliser de beaucoup de choses. Mais l'infidélité, c'est une trahison. Et l'infidélité à Dieu, c'est une trahison aussi. pourquoi serions-nous infidèles au Seigneur qui s'est donné pour nous ? Je termine avec ce verset. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Ce qui demande de nous, c'est qu'on soit fidèle, qu'on ne trahisse pas notre Seigneur, qu'on ne le déçoive pas, qu'on ne lâche pas. C'est, en anglais, ils ont une expression, c'est de laisser tomber le ballon. Quelqu'un me passe le ballon pour que je marque, et moi je laisse tomber. Et tout s'arrête. Ben, vous savez, le Seigneur, des fois aussi, il nous a inclus dans son équipe, et puis il nous a passé la balle, et puis... je crois que c'était... Je ne sais plus quel président qui disait... Pssit. Chirac, je crois que c'est... On peut laisser cette expression, une fois, on le connaît bien. Et c'est terminé. Tout s'est arrêté. Et le Seigneur dit... Tu as laissé tomber la balle. Oh, que le Seigneur nous aide. Nous savons combien ça fait mal, nous l'avons vécu, mais sachons aussi que ça lui fait mal. Et si nous l'avons déçu, eh bien, premièrement, demandons pardon à Dieu. Dire, Dieu, je veux t'être fidèle. Comme j'aurais désiré qu'on me soit fidèle. Et je suis faible, mais toi, tu peux. Rends-moi capable de t'aimer au point que je sois fidèle jusqu'au bout. Prenons quelques instants de méditation dans le silence et que chacun s'évalue et devant le Seigneur.